96.9, Mauricie, commentaire.
Que la Mauricie se lève.
Voici Maître François Vigeant.
Salut François.
Comment ça va?
Ça va très bien. Avant qu'on débute, j'ai tellement entendu parler de ton commentaire et surtout de ton amour pour Charlotte. Charlotte le chat. Hier, tu nous partageais donc ton amour pour cette chatte qui est venue, je pense, un 2 semaines chez toi.
J'ai battu les records de réception de courriels et de courriel et de texto.
J'en doute pas. Ben moi, je peux te dire que ça a rentré à pocheter aussi. Et entre autres, je veux saluer Mickaël qui m'a bien fait rire. Mickaël, souvent, va réécouter ton commentaire un petit peu plus tard parce que au moment où le commentaire se fait, il est au travail. Il dit « Je le savais, François est un homme à chat. » Il dit « Je viens d'écouter son commentaire. » Alors voilà.
J'ai pas eu le temps hier de rajouter quelque chose, mais vas-y. Vu qu'on en parle, je vais te rajouter quelque chose de drôle.
Oui.
Pour te démontrer à quel point, je ne sais pas si tous les chats sont aussi intelligents que ça, mais j'ai été bien impressionné par une chose.
Oui.
C'est que, comme j'étais au bureau, moi, l'essentiel de la journée, je reviens chez nous pour le souper.
Oui.
Alors, Charlotte, elle s'ennuyait, évidemment.
Mais oui.
Alors, on avait une cédule d'activités avec Charlotte le soir, dont une à 8h30 où on jouait à sauter dans le lit. Charlotte saute à plus que moi, mais...
OK, c'était ma prochaine question, d'accord. Bon. Oui.
Mais des fois, pendant cette période-là, c'était le tournoi de tennis, l'Open de Paris, à ce moment-là.
OK.
Alors, des fois, là, Charlotte, je disais, on va attendre un peu, là. Mais elle était timée, elle connaissait l'heure de quelque façon, OK? Alors, elle miaulait 2-3 fois, Charlotte.
OK.
Puis quand elle voyait que je lâchais pas le tennis,
moi,
ma TV était sur un grand meuble en bois qui soutenait la télévision.
D'accord.
Alors, si ça traînait trop, 5 minutes, OK, Charlotte s'en allait sur le meuble, OK, drette devant la TV.
Dire-toi, là.
Non, fini le tennis.
C'est
là,
bon
on joue à sauter dans le lit, là.
C'est cute, pareil. OK.
Non, ben,
je pensais jamais t'entendre parler de ça.
Mais un moment de vie avec Charlotte.
Exactement. Bon.
Bon, alors, une autre chose que je voulais parler rapidement avant d'arriver au dollar, c'est j'ai vu un reportage qui m'a vraiment impressionné hier sur Tissu le mieux, la seule compagnie au Québec qui produit, qui est le grossiste pour le fil de tissage pour ceux qui tricotent.
Oui, tricot. C'est-tu Tissu ou Tricot
le mieux? C'est Tricot.
Tricot le mieux.
Tricot le mieux.
Oui, oui.
L'augmentation en 2020 de leur chiffre d'affaires a été de 300%. Je répète, 300%. Les Québécois tricotent furieusement, Catherine.
Ça n'a pas de bon sens, François.
OK, je ne sais pas qu'est-ce qui se tricote, des bas, des gilets, des foulards, mais les gens n'ont jamais autant tricoté que ça, en tout cas.
Bien, à la maison, je peux t'en parler. D'autres, on a une jeune fille qui tricote. Fait qu'elle s'est mise au tricot. Fait que tu vois, on fait partie des exemples. Mais 300%, c'est pas rien, là.
Non,
spectaculaire.
Absolument.
OK.
Puis, c'est correct.
Mais
moi, je connais des activités de la vie beaucoup plus nuisibles que le tricot.
Il y a ça.
Je les nommerai pas. Bon. Quand les démocrates ont été élus au mois de novembre dernier aux États-Unis, j'avais dit ça va causer un problème pour la Mauricie.
Oui.
Les gens disaient, ben oui,
c'est qui dit là?
Ils délient complètement. Oui, j'avais dit, vous allez voir, quand les démocrates vont arriver, le dollar canadien va prendre beaucoup de valeur par rapport au dollar américain parce que les Américains vont s'endetter, ils vont imprimer de l'argent. Qu'est-ce qui arrive quand tu imprimes de l'argent? Ta monnaie perd de la valeur.
Oui.
C'est ça qui est en train d'arriver parce que les Américains s'endettent beaucoup plus rapidement que les Canadiens. Et ça a des répercussions. Évidemment, les gens disent, ben c'est le fun. Le dollar canadien est bien plus fort parce que quand on va aller dans le sud, ça va nous coûter moins cher.
Ben oui.
Notre dollar va être plus fort, on va avoir plus de dollars américains pour le même budget.
Ben oui.
C'est vrai. Mais il y a un autre côté à cette médaille-là. C'est les compagnies qui exportent.
Oui, ça c'est moins drôle.
Et en Mauricie, il y en a plusieurs qui exportent aux États-Unis. OBI.
Oui.
OBI paye ses dépenses en dollars canadiens. C'est quoi faire de l'aluminium? C'est tu payes des salaires et tu payes de l'électricité. En quelle monnaie tu payes ça? En monnaie canadienne.
Ouais.
Ensuite, ta tonne d'aluminium, là, tu la vends en dollars américains parce que c'est là que c'est dans cette monnaie de réserve-là que ça se transige.
Ouais.
Alors, c'est évident que si la même tonne d'aluminium que tu vends 1 800 $ américains, tu la vends, après ça, tu déposes ton chèque, puis en argent canadien, ça ne te donne pas le même montant que ça te donnait quand le dollar était à 1,38.
C'est sûr que non.
Et là, on voit le dollar canadien, comme d'autres monnaies, d'ailleurs, par rapport aux monnaies américaines, le franc suisse, etc. Mm-hmm. Et ça, ça va causer un problème, parce que tes coûts ne baissent pas, mais ce que tu obtiens baisse, parce que la monnaie dans laquelle tu l'obtiens baisse. Je pense aussi à une autre compagnie qui s'appelle Marmen.
Mm-hmm.
Marmen, une compagnie extrêmement importante pour notre région. Marmen va faire face à deux problèmes. Premièrement, la question de la monnaie, eux autres aussi. Ils vendent une certaine quantité de leur production en dollars américains. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas les dirigeants, les propriétaires de Marmen. Je sais qui ils sont. Ouais. Je sais qu'ils ont fait énormément pour notre région.
Tout à fait. Avec ce qu'ils ont construit. Absolument. C'est un exemple. Ouais.
Mais
ouais.
Ça va être un exemple. Mais eux autres, ils vont être placés dans un autre problème qui va tester leur décision de produire ici ou ailleurs. C'est que tu n'es pas sans savoir que les Américains actuellement ont l'intention d'acheter des produits qui sont fabriqués aux États-Unis.
Oui. Ben oui. Le Buy American.
Il y a un protectionnisme énorme qui est en train de se développer aux États-Unis et qui va beaucoup affecter la vente des biens canadiens aux États-Unis.
Tout à fait. On a beaucoup critiqué Trump avec son protectionnisme, mais je me demande si Biden
l'est
pas
encore...
C'est
trois fois pire.
Ben c'est ça, hein? C'est OK, je m'en allais là.
C'est trois fois pire avec les démocrates.
OK.
Bon, alors, là, à un moment donné, les entreprises de ce type-là vont se dire « Ouais, mais là, il y a deux problèmes. » Je perds un avantage de la monnaie dans laquelle je vends mon stock, mais pas juste ça.
Mm-hmm.
Si je ne produis rien là-bas, est-ce qu'ils vont acheter mes bidules? S'ils sont produits uniquement au Canada, est-ce que ça ne sera pas tentant dans ces conditions-là de dire, ben peut-être que je vais fabriquer des pièces là-bas.
Ben...
Peut-être que je vais monter mes appareils là-bas au lieu de les livrer.
Moi, je m'y attends, François. Pour certaines compagnies, à un moment donné, la question, elle va se poser. Donc, d'aller produire aux États-Unis, ça pourrait être une partie de la solution, là.
Malheureusement,
je le sais, mais...
Parce que c'est une partie importante. Vous savez que l'essentiel de notre exportation se fait aux États-Unis.
Oui.
Je veux dire, ce qu'on exporte en Europe ou en Chine, c'est minimal.
Mm-hmm.
C'est une petite partie de l'exportation des biens québécois.
Mettons, ce serait quoi le pourcentage selon toi?
Moi, d'après moi, c'est autour de 75%.
75%?
D'après moi, oui.
Ah oui?
Ah oui. D'après moi, par rapport mondialement, là, d'après moi, c'est 75% de ce qu'on exporte à l'extérieur du pays. Ça doit être des grenailles, 7-8% en Europe. Ça doit être des chiffres comme ça, 6-7% en Chine, 2% au Vietnam. Ça doit être aussi faible que ça. Et ça, c'est rien.
Mm-hmm.
C'est que dans ces chiffres-là, il y a des matières premières que tu ne transformes pas. Tout ce que tu fais, c'est aller la chercher dans le sol, le mettre sur le bateau puis l'envoyer là-bas.
Ouais.
Ça, quand tu perds ça, c'est tel que tel. Quand tu perds un marché d'un produit que tu as transformé, avec lequel tu as travaillé, tu as fait travailler des gens, tu as créé des emplois, tu as créé une turbine, tu as créé une barre d'aluminium, là, c'est pire.
Oui.
Parce que c'est pas juste si je prends du cuivre, je fais un trou, je sors le cuivre, je le mets sur le bateau.
Mm-hmm.
Ce que je perds quand je l'exporte, c'est quand même minimal en termes de travail ou de plus-value que j'ai ajouté au produit.
Ouais.
Alors, la hausse de la valeur du dollar américain pour aller passer une semaine à Wildwood, c'est parfait.
Oui, c'est bien le fun.
Mais quand tu produis et que tu transformes des biens, que tu veux les vendre aux États-Unis... ça va créer éventuellement un problème parce que la faiblesse de ta monnaie à l'échange est un avantage quand tu veux l'exporter.
Parce que là, je regardais, François, là, on est à peu près à quoi, 80 cents US, là?
Ça fait longtemps qu'on n'a pas été là.
Ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'on n'a pas vu ça.
Bon,
c'est ce que je disais hier, parce que quand tu m'as envoyé ton texto, je suis allé faire mes recherches, ça fait trois ans qu'on n'a pas connu ça.
Bon, alors, tu vois que... Puis il y a un mouvement continu, ça a été... Je pense autour de 68 à un moment donné.
Ouais.
Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Rappelle-toi ce qui est arrivé en 2006-2007. C'est monté à 1,54, je me rappelle.
Oui, tout à fait.
1,54, c'était du stock, ça. Et qu'est-ce qui est arrivé une couple d'années après? Elle est revenue au pair.
Oui, Exact, bon. Oui.
Je pense même que le dollar canadien valait une cent de plus ou une cent et demie de plus un moment donné.
Oui. Bon.
Ces variations de monnaie-là ont des influences qui sont graves dans la vie de tous les jours.
Mm-hmm.
Dans la vie, c'est juste qu'on ne le voit pas, c'est imperceptible. Hein? Ça se fait tranquillement, pas vite.
Oui.
Bon, alors, est-ce que le gouvernement va prendre des mesures pour aider à conserver certains de ces emplois-là ici? Parce que moi, il y a une chose qui m'a toujours tapé ses nerfs sur l'aide économique au Québec, c'est qu'on a souvent le but ou souvent le gouvernement va jeter de l'argent sur des entreprises moribondes qui, après ça, ferment ou compétitionnent de façon déloyale des entreprises qui, elles, n'ont pas à être subventionnées.
Ouais.
On met souvent sur des joueurs qui sont boiteux. Est-ce que tu veux que je te rappelle l'histoire de Bombardier?
Non, c'est pas nécessaire.
OK? Non, mais
c'est pas pareil.
Non, mais c'était à coup de centaines de millions.
Ben oui.
Et il y en a plein d'autres. White Birch, je pourrais continuer.
Ouais.
Alors, peut-être que le gouvernement va avoir une réflexion à faire et dire, minute, là, quand on investit pour sauver les entreprises qui vont mal, est-ce que ça serait pas plus rentable d'aider les entreprises qui vont bien, mais qui font face à des phénomènes macroéconomiques qui sont pas de leur faute?
Oui, absolument. Je te suis à 200%.
Et demain,
on
va parler de basketball. C'est March Madness qui commence.
Oui.
Bruit de tambour. Alors, March Madness,
oui.
C'est le grand tournoi. C'est la messe du basketball de collège aux États-Unis.
Oui.
Un événement extrêmement intéressant, extrêmement passionnant pour ceux, évidemment, qui ont un certain goût pour ça.
Oh, il y en a.
Et ça s'écoute même si vous ne suivez pas le basket de collège habituellement. Et demain, on va parler de bracket.
De bracket, parce que là, Raphaël est en train de préparer son bracket. Fait qu'il sera là avec
demain, lui. Si vous nous écoutez, vous aurez toutes les surprises majeures qui vont arriver au basket de collège dans les deux prochaines semaines. Garantie ou argent pas remis.
Salut. À demain, bye. François Bigeant, du lundi au jeudi, 7h35. Alors oui, demain, on parlera du March Madness.